Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
Ce mois-ci, nous avons trois films assez différents à notre programme. Ils nous viennent d'abord de contrées assez éloignées l'une de l'autre, Taïwan pour le premier, la France et je pourrais même dire la Bretagne pour le second, et les États-Unis pour le troisième. Ils nous plongent dans des univers et des époques très variés, mais surtout ils appartiennent à des genres très différents au point de vue cinématographique. Le premier, The Assassin de Wu Xiaoxian, est un film de sabre, sorte de variante chinoise de l'épopée héroïque. Suite armoricaine de Pascal Breton est une chronique très intimiste. Et enfin, Midnight Express de l'américain Jeff Nichols est un thriller matiné de science-fiction.
Midnight Special.
Merci, Jean. Et pourtant, ces trois films ont un point commun. Ils comportent, à des degrés et sous des formes diverses, un soupçon, un parfum de surnaturel, de fantastique, comme si le cinéma aimait à se nourrir de ce qui est à la frontière du réel. Commençons par The Assassin, ce très beau film qui nous vient de Taïwan, du réalisateur Wu Xiaoxian. Wu Xiaoxian a 68 ans, il est aujourd'hui un des réalisateurs chinois les plus connus et les plus récompensés en Europe. Il a réalisé une vingtaine de longs métrages. Il a accédé à la notoriété, en tout cas en Europe, en recevant le Lion d'Or à Venise en 1985, pour inciter des douleurs. Et sept de ses films ont été sélectionnés à Cannes, où il a reçu le prix du jury en 1993 pour Le Maître de marionnettes, et donc récemment le prix de la mise en scène en 2015 pour le film dont nous allons parler, The Assassin. Et il a abordé des genres très variés, du néo-réalisme de ses débuts au film sur l'histoire de Taïwan des années 1990. Vous avez peut-être vu ses films récents comme Millennium Bambo, Sweet Times ou Le Voyage du Ballon Rouge. Avec The Assassin, il aborde un nouveau genre, un genre qui n'avait pas encore utilisé, qui est le film d'époque, et plus précisément donc ce que l'on appelle le film de sabre. Alors Marie-Jeanne, dans quelle époque nous emmène ce film ?
Alors ce film nous entraîne dans la Chine du 9e siècle sous la dynastie des Tang. Alors, l'empereur, pour mettre le décor, l'empereur veut combattre des gouverneurs de province qui essayent de se soustraire à son autorité. Nie Yinyang est une héritière d'une grande famille et elle a été élevée loin de ses parents par une nonne qui l'a initiée secrètement aux arts martiaux. Elle fait justement partie de l'ordre des assassins et a pour mission de tuer les gouverneurs rebelles en général, mais en particulier celui de la province de Yebo. C'est le prince Tianyan, qui n'est autre que son cousin, auquel très jeune elle avait été promise et dont elle est restée très amoureuse. Voilà ce que l'on doit savoir avant d'aller voir le film.
Parfait, explication très claire, mais est-ce que cela suffit à comprendre ce qui se passe ?
Non, le ressort narratif n'est pas ici le déroulé d'une histoire bien charpentée avec ses débuts, ses rebondissements parfois spectaculaires, sa fin, non. Certains spectateurs seront sûrement désarçonnés par la complexité de l'intrigue qui ne permet pas une compréhension totale du propos ou par le mystère qui imprègne certains plans. Moi-même, il y a certains que je n'ai toujours pas compris, mais qu'importe ! Mieux vaut se laisser emporter par les images. Ce film est d'une telle beauté, d'une telle puissance et d'un tel plaisir esthétique que l'intrigue en elle-même passe au second plan. Le prologue commence par un noir et blanc au grain très élaboré qui permet de camper les deux personnages principaux de femmes, la femme en noir, l'assassine, Nie Yan, et la nonne qui l'a élevée, toutes de blanc vécu. Puis, après l'annonce du titre en rouge vif, la couleur explose.
Ah oui, alors ça, dès le générique, on plonge dans un tableau absolument exceptionnel.
Oui, tout alors est œuvre d'art. Le moindre plan devient un tableau particulièrement soigné. Les somptueux décors scrupuleusement reconstitués, les couleurs où dominent le rouge et l'or, la gestuelle des personnages, la lenteur de la caméra qui se fait soudain fulgurance au moment des quelques combats de la grande dame en noir. Le chatoiement des soieries, les voiles qui nimbent les scènes intimes ou qui font apparaître des personnages cachés révèlent vraiment toute la virtuosité du réalisateur et son sens très aigu de la mise en scène.
Les intérieurs sont effectivement magnifiques, mais il y a aussi toute une partie tout aussi exceptionnel en extérieur.
Oui, le décor naturel est également filmé avec beaucoup de maîtrise. Les paysages de Chine intérieure avec des montagnes escarpées et d'immenses plaines sont stupéfiants de beauté et vraiment dignes de la palette d'un grand maître.
Mais il y a aussi les combats, alors les fameux combats, que peux-tu en dire ?
Alors, The Assassin a obtenu à Cannes le prix de la mise en scène et ô combien mérité. Les combats en effet apparaissent le plus souvent à travers de longs travelling derrière des troncs de bouleaux blancs épurés, chatoyant des lumières, lignes de fuite, inversion des échelles. Par exemple, la scène de la rencontre de la Dame Blanche et de la Dame Noire au sommet d'une montagne qui se noie progressivement dans une mer de brume est époustouflante de beauté et restera sûrement dans les annales, à mon avis.
Oui, c'est effectivement un film de sabre très très particulier.
Oui, et c'est la première fois, tu l'as dit, que Hu Xiaoxin se risque au genre. Mais le réalisateur préfère l'aborder d'une manière romantique, presque contemplative, en privilégiant les longs plans séquences, les frôlements de la soie, les rapports entre les personnages. Yin Yang n'est pas qu'une combattante très habile, c'est aussi une femme qui a du cœur, aux grandes dames d'ailleurs de la nonne qui le lui reproche à deux reprises et qui va même jusqu'à essayer de la combattre. Alors il n'est pas étonnant que ce film ait maturé pendant une décennie et nécessité bien plus de 15 mois de tournage. Le résultat, véritablement, est un joyau qui fera date dans l'histoire du cinéma. Allez le voir.
Oui, oui, c'est un film absolument magnifique. Mais pour nous, c'est un peu une gageure de parler d'un film comme ça, qui repose vraiment sur les images, dans une émission de radio. Alors on va quand même essayer. Jean, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, je pense qu'on ne peut... On ne peut qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que on est dans un tableau, dans une calligraphie chinoise du début à la fin, et c'est absolument époustouflant. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, on en reste vraiment assis dans son siège sans bouger. On se fout de l'histoire, ça c'est vrai, mais alors qu'est-ce que c'est beau.
Oui, mais il faut avertir les spectateurs parce que malheureusement il y avait des gens qui partaient parce qu'ils comprenaient pas.
Alors, oui, c'est dommage. C'est vrai. Oui. Jean-Michel, tu as compris peut-être.
Oui, mais bien sûr que non. Et tant mieux. Même enfin à la première vision comme à la seconde, on comprend pas beaucoup plus, mais peu importe.
Un peu plus.
Mais c'est pas le plus important. Marie-Jeanne l'a très bien dit. C'est un éblouissement de mise en scène. Une toute petite rectification simplement, Jacques, quand tu dis le plus grand ou un des plus grands réalisateurs chinois. Taïwanais.
Oui, Taïwanais, bien sûr. Mais si je dis Taïwanais, c'est
Taïwan,
un petit peu réducteur.
C'est pas la Chine.
Bien sûr, mais mais c'est quand même filmé en Chine.
Oui, oui, absolument. Et c'est la littérature chinoise.
Au sens de la culture.
Oui, absolument. De l'époque Tang. Il y a de nombreux personnages féminins. C'est très agréable à voir. C'est plus qu'un film de sabre. C'est un film, d'après ce que dit le réalisateur, un film de chevalier errant expert. En arts martiaux.
Je crois que le terme, c'est Wuxia.
Voilà, Wuxia, qui est un chevalier errant, redresseur de tort. Et en fait, moi, ce qui me paraît caractériser le plus le film, ça a très, très bien été dit, c'est le début du sonnet de Malherbe, « Beauté, mon beau souci ».
Oui.
Beauté,
oui,
mon beau souci, parce que c'est un travail extraordinaire, aidé par les soies, qui ont toutes été des soies naturelles et non pas des soies artificielles, et une préoccupation esthétique majeure sur qui évoque la peinture traditionnelle chinoise, un travail sur les estampes. Bref, on est hypnotisé par ce qu'on voit, on ne sait pas pourquoi, les mouvements de caméra et l'image accentuent le caractère musical et chorégraphique de l'ensemble, et on est sous le charme.
Oui, tu as employé le mot musical. La musique est aussi tout à fait exceptionnelle. Ce sont des instruments traditionnels chinois, et en particulier la plupart des scènes dans le palais sont rythmées par une espèce de gong, ou de tambour, je ne sais pas.
Régulièrement. C'est prenant.
C'est à la fois inquiétant et superbe.
Oui, tout à fait.
Je vois pas dans l'histoire du cinéma un truc qui ressemble à ça.
Oui, c'est très particulier.
Je pense que ça fera
Jean-Michel, tu parlais des intérieurs, ce travail sur les voilages qui rend flou à certains moments l'image et qui à certains moments au contraire la révèle, c'est fascinant. C'est absolument fascinant.
Et Oui, et puis le caractère impitoyable d'une héroïne qui est quasi muette et qui, dont on se demande par quoi elle est mue, parce que elle est en même temps chargée de ce meurtre, mais elle conserve son amour pour ce cousin en question. Et bon, on est très dépaysé du point de vue culturel, bien entendu.
Et en plus, elle ne dit qu'une réplique dans le film. C'est extraordinaire.
Elle parle très peu. Et puis, alors, toujours dans ce code, effectivement, de combat, en fait, il suffit d'humilier l'adversaire. Il n'y a pas besoin de le tuer. À partir du moment où on a fait une légère déchirure dans le vêtement, on a vaincu. Je voudrais revenir sur les extérieurs, parce que les extérieurs sont aussi fabuleux. Et en particulier dans la façon de recréer la peinture chinoise. Il recrée complètement le cadrage. Les peintures ou les calligraphies chinoises sont en général pleines de vide, avec des petits personnages. Oui. On retrouve absolument ça.
Des fils de petits cavaliers tout colorés.
C'est
un travail
exceptionnel.
Ah, oui. Le metteur en scène d'ailleurs dit que en fait dans la ils attendaient que la brume se lève, c'est-à-dire que c'est pas de la brume créée au numérique. Le film est fait en numérique, mais ils n'ont pas créé de la brume en numérique. Ils attendaient que la brume se lève en espérant qu'elle aille dans le bon sens. C'est fascinant, quoi.
Et ce qui est dépaysant aussi sur le plan des images, c'est qu'il y a un minimum de gros plans.
Pratiquement pas de gros plans,
et c'est justement un travail qui est demandé aux spectateurs, mais qui s'en réjouit, de pouvoir distinguer la richesse de ces plans plus larges.
Ouais. On retrouve la calligraphie chinoise, où il n'y a pas de gros plans non plus. Et d'ailleurs, bon, on abuse un peu maintenant des gros plans dans le cinéma. Et là, voilà un film, effectivement, où il n'y a jamais de gros plans. Il y a quelques plans moyens, mais en général, il n'y a pas de gros plans.
Ah, c'est merveilleux, cette unanimité.
Mais parce que de temps en temps, comme ça, nous avons un film.
Il y a une perle, c'est une perle.
C'est une perle. Alors, on va passer à un film dans un genre totalement différent, Suite armoricaine, donc de Pascal Breton. Avec ce film, nous quittons la Chine de la dynastie Tang pour la province française. Et nous passons à un tout autre genre. Alors, on n'est plus du tout dans le film épique, on est dans la chronique intimiste. Pascal Breton est né à Morlaix en 1960. Elle a passé toute sa jeunesse en Bretagne. Elle a étudié à la faculté de Rennes, comme son héroïne. Et on peut donc considérer que la Suite armoricaine est un film très largement autobiographique. Auparavant, elle a surtout écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision. Elle a aussi réalisé quelques courts-métrages et un seul long, en 2004, Illumination, chronique d'un jeune pêcheur, déjà breton d'ailleurs, qui a remporté un prix au Festival de Rotterdam, mais qui n'a pas été un grand succès commercial. Et donc Pascal Breton a dû attendre une dizaine d'années, en fait, avant de réaliser son second long-métrage, Suite armoricaine. Et le film a été réalisé en collaboration avec les étudiants de la faculté de Rennes. Son tournage s'est étalé sur toute une année scolaire. Peut-être à cause de cela, on y trouve une gestion du temps assez particulière. Alors Jean-Michel, quelle petite musique fait-elle entendre, cette Suite armoricaine ?
Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et on peut effectivement le comparer, ce film qui a été distingué au Festival de Locarno en 2015, où il a obtenu le prix de la presse internationale, on peut le comparer à une œuvre polyphonique qui est tournée du reste en cinémascope et qui évoque picturalement et narrativement une fresque dans laquelle les thèmes omniprésents de l'amour, de la mort, de l'art, du temps s'entrelacent avec fluidité. Tu l'as dit, c'est largement autobiographique et a pour particularité d'avoir fait appel à la collaboration de 11 étudiants qui ont participé à l'élaboration de ce film. Et le scénario s'inspire de la méthode d'écriture improvisée de Cesare Zavattini, figure majeure du néo-réalisme italien, en avançant dans le récit sans chercher à en connaître la fin.
Oh, c'est presque inquiétant. Est-ce à dire que la narration est difficile à suivre?
Non, pas vraiment. Pas comme dans Assassin. Mais elle évolue capricieusement avec une temporalité particulière qui épouse les méandres du fleuve mémoire et les réminiscences de l'héroïne. Deux personnages dont les destins se croisent et qui ignorent qu'ils ont un passé en commun vont vivre une année universitaire sur le campus Ville-Jean de l'université de Rennes 2. Françoise, qui est une brillante intellectuelle, ayant quitté la capitale, un compagnon et une psychanalyse en cours, est un alter ego de la réalisatrice et revient 30 ans après ses études pour enseigner l'histoire de l'art. Et Yon, étudiant en géographie, amoureux lui-même d'une étudiante aveugle, Yon qui prétend que sa mère est morte.
Oui, alors effectivement, il ne se passe pas énormément de choses. Au fond, comment la réalisatrice s'en tire-t-elle pour éviter un peu que l'action s'enlise et qu'on s'ennuie finalement ?
Eh bien, c'est une question qui est posée, mais à mon avis, grâce en partie au talent et au charisme de la grande comédienne que j'admire beaucoup, qui est Valérie Dréville, qui interprète Françoise de façon très convaincante comme une somnambule à la recherche d'elle-même, ignorant que pour fuir la nostalgie de sa jeunesse, elle a oublié le pays de son enfance au profit d'une contrée imaginaire et bienheureuse dans laquelle elle s'est réfugiée, l'Arcadie, dont elle fait significativement d'ailleurs son objet d'étude. Dès lors, elle avancera davantage à la faveur de sensations visuelles et auditives que de souvenirs, dans la quête inconsciente de l'enfance et de l'adolescence, que stimuleront ses rencontres avec des étudiants bretonnants, qui feront surgir l'image d'un grand-père guérisseur et les noms des plantes médicinales qu'elle avait oubliées, et avec des vieux amis qui hantaient comme elle les concerts de rock au début des années 80, et dont la plus folle d'entre elles est une certaine Moon, qui, droguée, est devenue une vieille punk SDF au moment du film, après avoir abandonné son fils Yon. Ce travail sur la mémoire et le temps, une mosaïque de temps selon l'expression de Tarkovsky, s'exprime à travers un montage qui, dans le film, privilégie le rythme, là encore, on en a parlé pour le film précédent, et en justifie le titre. Une suite armoricaine, c'est un titre musical.
Tout à fait, oui. Oui, c'est un film au rythme très lent, qui épouse d'une certaine manière le temps du réel. Ça peut énerver, ça peut plaire. Marie-Jeanne.
Je partage moins l'enthousiasme de Jean-Michel. Je dirais que je suis mitigée devant ce film. Alors, c'est certain, la réalisatrice a un regard très intéressant sur l'art et la mémoire. Notamment les analyses très érudites de Françoise autour de l'œuvre de Nicolas Poussin et In Arcadia Ego sont très très intéressantes et c'est très intellectuel. Et on peut pas rester non plus indifférent devant cette progression du temps, la boucle du récit avec les découvertes progressives de Françoise vers un passé dont elle avait oublié tous les trésors de son enfance. Ça c'est vrai. Mais ce grattage de nombril dure quand même 2h30. Pourquoi avoir fait si long? On se demande parfois où la cinéaste veut en venir. Pourquoi elle rallonge la sauce à ce point-là? Mais enfin, ça procure de l'ennui. On finit par être mal à l'aise. Alors, il y a quelques scènes intéressantes, quand notamment Françoise rencontre Moon, et parce que ça bouleverse un peu les codes traditionnels. Mais heureusement, je suis d'accord qu'il y avait Valérie Dréville. Mais enfin, pourquoi une telle longueur qui, à mon avis, plombe beaucoup le film et rend le spectacle.
Voilà. Bah, c'est le point clé du film. C'est
tant vécu ou tant subi.
Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on se dit, au fond, en une heure et demie, ça aurait été beaucoup plus dense. D'un autre côté, il y a un certain charme à cette lenteur. Jean, tu es pour la lenteur ou pour le...
Je crois qu'il y a un mot qui a été dit, c'est intimiste. Et c'est vraiment le mot clé de ce film, qui est tout en nuances, qui est plein de résonances, de redites, de digressions, qui n'ont pas rapport, par rapport à voir avec le film. Par exemple, les explications sur les tableaux, qui sont très intéressantes. Mais bon, c'est un travail très sage de la caméra aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de...
D'innovation,
de trucs.
C'est très classique, oui.
Oui, alors tout ça, ça donne un spectacle qui coule, sans à-coup, avec plaisir, que l'on regarde avec plaisir, on sait se porter avec plaisir, et de temps en temps, on s'y ennuie.
Dormir.
Presque, on peut somnoler, penser à autre chose, et on reprend le fil du film, ça ne change rien, et c'est assez agréable.
Rappelez-vous le Rhône, le fleuve qui s'écoule à la fin, à la fin du film, et qui, c'est un petit peu cet écoulement un peu paresseux.
On sort pas mécontent quand même.
Oui, parce qu'en fait, cette lenteur, d'une certaine manière, c'est un peu la vie, au fond. Et on prend On n'a pas un film dense, on a un film effectivement qui, on a des périodes où on s'ennuie, on a des périodes où on s'ennuie. Bon, c'est un peu ça.
C'est la vraie vie.
Est-ce qu'on va au cinéma pour s'ennuyer?
Non, mais ça discute.
C'est la question.
Mais alors en plus, la longueur est accentuée.
C'est un peu proustien.
Ouais,
dans la lecture, pas dans
la longueur est accentuée par le fait qu'elle emploie un procédé qu'on commence à trouver assez souvent, enfin dans ces deux dernières années, qui est de tourner deux fois, de nous montrer certaines scènes deux fois. Les deux points de vue des deux personnages. Et en fait, c'est assez bien. Il y a des fois où c'est un petit peu, je dirais, un peu artificiel. Là, c'est assez bien fait parce qu'en fait, elle le fait aux deux moments où les deux personnages principaux, Françoise et Yon, je dirais, se croisent sans se connaître. Hein, avant qu'ils se rencontrent.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est pas mal de voir ces, au fond, là encore, on voit, mais effectivement, ça rallonge encore un peu, un peu le film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film assez touchant sur la mémoire, sur le temps qui passe aussi, parce que au fond, elle revient dans une ville qu'elle a. Alors, on ne sait pas très bien là aussi. Peut-être que c'est une faiblesse du film. On ne sait pas très bien pourquoi elle a coupé avec son passé, pourquoi Rennes n'est pas très loin de Paris, pourquoi elle n'est jamais revenue à Rennes, etc. Donc là, il y a une espèce de grand mystère qui n'est pas dévoilé du tout dans le film. Et on la voit effectivement renouer avec des amis qui ont évidemment vieilli et souvent mal vieilli. Et ça donne des scènes assez intéressantes, assez intimistes aussi.
Mais tout est bien là-dedans, mais il manque un peu de nerf.
Voilà. Ah oui, tout à fait.
Il manque un peu de nerf. Mais sinon, c'est...
Punch.
C'est pas un film d'action.
Ah non.
Pas vraiment.
On est à l'antipode du film d'action.
Oui.
Mais il en faut aussi des comme ça. Hein. Je veux dire, c'est pas...
Il est pas mal quand même.
Oui, mais moins long.
La peinture des personnages, bon, je ne parle pas uniquement des deux personnages principaux, mais la peinture des gens qui tournent autour, cette fameuse Moon par exemple, ou les autres, ça, est assez bien faite. Il y a un peu de dramatique, bien sûr, mais c'est très réaliste, enfin, c'est assez profond, quoi. Non, j'ai trouvé que là, on est dans un film, effectivement, où il n'y a pas une action, c'est pas un blockbuster, c'est pas beaucoup d'action, mais. C'est un certain charme.
Comme tu le disais, une petite musique.
Une petite musique. Bien, on va passer...
À une petite musique,
pour faire un peu de pause. Alors nous reprenons avec notre troisième film, Midnight Special, de Jeff Nichols. Jeff Nichols est un jeune réalisateur, il est né en 1978, il a donc moins de 40 ans et il a déjà 4 longs métrages à son actif. Donc on n'est pas du tout dans le même tempo que pour Pascal Breton. Il a fait donc Shotgun Stories en 2007, Take Shelter en 2011, Mud en 2012, qui avait été sélectionné à Cannes, et donc ce Midnight Special qui a été présenté au Festival de Berlin. Ce qui est assez intéressant dans la démarche de Jeff Nichols, c'est qu'il creuse un même sillon, le thème de la famille, et plus précisément en fait la responsabilité du père vis-à-vis de son ou de ses enfants, pour protéger ses enfants. Et il le fait, creuse ce sillon, mais il le fait à travers des genres assez différents. Take Shelter abordait déjà un peu le genre du fantastique et du surnaturel, mais d'une manière beaucoup plus intérieure que dans Midnight Special. Et Mud était un thriller assez classique, où deux jeunes adolescents trouvaient pour quelque temps une sorte de père de substitution à travers un aventurier qu'ils aidaient. Pour ses premiers films, notamment pour Take Shelter ou pour Shotgun Stories, on a évoqué l'influence de Terrence Malick. Pour Midnight Special, certains critiques voient en lui le nouveau Spielberg. Donc ça fait des références qui sont assez prestigieuses, tout à l'honneur de ce jeune réalisateur. Jean, est-ce que tu trouves que ce film mérite ses références?
Bon, la comparaison avec Spielberg me semble relever plus d'un coup médiatique que de la réalité. Mais on en parlera plus tard, parce que il y a quand même une certaine influence. Mais vraiment, dire que c'est de nouveau Spielberg me semble quand même un petit peu osé.
On est d'accord.
Résumons l'intrigue. Un jeune garçon est enlevé par deux hommes. En réalité, Roy, le père d'Alton, et un de ses amis ont soustrait le petit à la communauté religieuse qui le prend pour un messie, car une lumière aveuglante sort de ses yeux et ils attendent un événement prodigieux dans les jours qui viennent. Dans leur cavale, ils seront aussi poursuivis par la secte et par le FBI. La première séquence de Midnight Special est un modèle. En quelques détails, un fusil sur un lit, des regards pleins de non-dits, un poste de télé résonnant dans le silence et annonçant l'enlèvement d'un enfant, Nichols construit une tension captivante et lie le spectateur au personnage, un impact indéfectible. En quelques minutes d'introduction, il tient le public dans le creux de sa main et il fait de son film un creuset à fantasmes dont la portée visuelle est ensorcelante.
Oui, mais le film n'est quand même pas seulement un film de science-fiction, en fait, il l'est par instant.
Oui, bien sûr, tu as raison, il est beau. En fait, ce film est beaucoup plus complexe que ça. Car après cette introduction, plusieurs genres vont s'interpénétrer. Le road movie, le thriller, la science-fiction et le drame psychologique. Par exemple, une voiture bifurque sur une bretelle à toute vitesse, puis fonce tout phare éteint dans la nuit jusqu'à percuter une autre voiture, le conducteur ayant des lunettes infrarouges. Puis une course-poursuite avec des policiers dans une voiture roulant sur ses jantes. Voilà pour le road movies. Un jeune garçon est enlevé par deux hommes, dont l'un est son père, et qui seront poursuivis à la fois par le FBI et des membres fous d'une secte. Ça, c'est le thriller. La science-fiction, bien entendu, joue un rôle important, puisque Alton suscite l'intérêt de tous. Considéré comme un messie par la secte à ses trousses, il est vu par le FBI comme une arme à même d'interférer sur les communications des services secrets américains. Voir la séquence suffocante des satellites s'écrasant près de la station-service en germe de flammes. Comme il le dit lui-même, Nichols s'est largement inspiré de Spielberg et de Rencontre du troisième type.
Oui, alors effectivement, on pense à Rencontre du troisième type. On peut aussi penser à E.T. Du même Spielberg, sauf qu'ici, l'extraterrestre est un enfant et que cette présence de l'enfant change tout, en fait.
Oui, tu as raison, mais pour moi, la ressemblance avec Spielberg tient plus à la technique cinématographique et à l'ambiance générale. Car Nichols, dans ce film, refuse les effets spéciaux modernes et utilise ceux en vigueur dans les années 70. Et c'est pour ça qu'on pense aux deux films dont tu as parlé. C'est comme autant de Spielberg. Et ça se passe très bien. Car les lueurs dans le ciel et dans les yeux de l'enfant, par exemple, sont vraiment typiques de Spielberg. Mais toute l'énergie du récit consiste à placer l'enfant au cœur du film, à le sonder et peut-être à terme à le comprendre. C'est le côté drame psychologique. Le metteur en scène explique qu'il s'est inspiré de sa propre paternité pour façonner le personnage de Roy, en particulier quand son propre fils, très jeune, a été gravement malade. Le cinéaste poursuit ici sa quête introspective, celle d'un homme devenu père et vivant ce nouveau rôle avec beaucoup d'angoisse. Le garçon sera-t-il bon et ses parents capables de dominer leur peur afin d'éviter à l'avenir d'exercer sur lui un contrôle néfaste ? Devant ce jeune qui a des pouvoirs surnaturels et qui dépérit de ne pouvoir se réaliser, ou peut-être de rejoindre les siens venus d'un autre monde, le comportement de Roy et Sarah, ses parents, sera d'accepter sa différence, de le soutenir et de le laisser partir pour qu'il puisse vivre pleinement, et ce message d'amour total vis-à-vis de leur enfant est très poignant.
Oui, le récit est intéressant, les acteurs tiennent beaucoup aussi pour ce film.
Oui, bien sûr, ce film est porté essentiellement par la présence de Michael Shannon, l'acteur fétiche de Nichols, est présent dans tous ses films. Son physique, sa voix crève l'écran et donne de la crédibilité à l'ensemble. Il faut aussi ajouter la présence de la nature. Jeff Nichols est un homme de la campagne, né dans les grandes plaines du centre des États-Unis, et dans toute sa filmographie, la nature est, comme ici, très présente et joue un vrai rôle.
Alors, on va voir si tout le monde aime la science-fiction. Marie-Jeanne.
Alors, je serais une très très mauvaise critique, car je déteste ce genre de film.
Ah, alors, il fallait me prendre alors.
Il fallait le prendre.
Comme beaucoup, j'ai vu Rencontre du troisième type et ça a épuisé toute mon indulgence pour ce genre. Donc, je n'ai pas aimé. Alors, j'y suis allée à reculons parce que je savais qu'on en parlerait aujourd'hui, mais je n'ai pas été déçue. Comme je m'y attendais, je m'y suis copieusement ennuyée. Je suis restée extérieure au film tout au long et je dois dire que c'est la conscience aiguë du devoir qui m'a empêchée de sortir avant la fin. Donc, il ne faut rien attendre de positif de moi. Alors, oui, du point de vue cinématographique, je reconnais que ce jeune Nichols a du talent. Son film est beau, esthétiquement parlant. Les vues de l'Amérique profonde et désolée sont bien rendues. Mais enfin, on a déjà vu ça 100 000 fois. Je n'ai pas l'âme aussi jeune pour apprécier ces films de science-fiction qui, je dois dire, ne m'apportent rien, que je trouve dans l'ensemble assez sommaire du point de vue de leur signification, si toutefois il y en a une. Alors qu'on me parle du rapport des parents avec un enfant qu'ils laissent... Enfin, écoutez, d'abord, ils n'ont pas le choix dans le film, il s'en va tout seul. Et puis, vraiment, il n'y a pas de quoi. Les critiques s'extasent sur ce rapport parent-enfant. Mais enfin, c'est d'une banalité, mais à pleurer, je
dirais. Alors, Jean-Michel...
Oui, enfin...
N'en rajoute pas trop, si tu en veux.
Vous m'arrêterez. Je ne serai pas plus tendre que Marie-Jeanne. J'ai recherché un peu vainement une métaphore porteuse de quelque chose là-dedans. Le rapport parent-enfant me... Bon, en 12 points extrêmement brefs, pourquoi le titre c'est de la science-fiction, matinée de fantastique, c'est plus près, comme tu l'as dit, de Take Shelter que de Mud, qui m'avait beaucoup plu.
Oui, c'est plus près de Take Shelter, mais Take Shelter était plus intériorisé.
Oui.
Là, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, les effets spéciaux sont peut-être un peu trop marqués.
Oui.
Alors, il n'y en a pas tellement.
Il n'y en a pas tellement, mais ils le sont quand même.
Pour moi, c'est pas très au-dessus d'un téléfilm américain moyen. Je me suis beaucoup ennuyé et j'ai pas du tout ressenti de thriller. Je suis pas contre les thrillers, mais vraiment, j'ai pas du tout thrillé. les extérieurs et les éclairages sont quand même très très déplorables pour moi. Ah. J'ai trouvé que le scénario était pauvre.
Ça passe la nuit, hein.
Que le scénario était pauvre. Oui. Que alors l'idéologie scientologique de secte du ranch est éculée. On l'a vu mille fois.
Oui, je sais pas.
C'est nul. La mise en scène ne m'a pas du tout touché. Les effets spéciaux rudimentaires avec les yeux, c'est quand même extrêmement sommaire, extrêmement rat-terre. Les personnages...
Les années 70.
Les personnages...
On est en 2016.
Oui, mais enfin, les personnages n'ont aucune personnalité. Ils sont transparents. Il n'y a que des hommes. Moi, j'aime bien voir de temps en temps des femmes qui ont de la consistance.
Il y a la mère, quand même.
La mère, elle est totalement inexpressive et sentimentale et bébête. Au total, des acteurs sans aucun charisme.
Bravo Jean-Michel, bravo.
Oui, mais je pense qu'ils sont pas... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle charisme. Je pense qu'il y a une certaine force dans les acteurs.
Bon, au service du film,
j'ai, disons, moyennement aimé le film. Il y a des choses que j'ai aimées. La fin est un peu ridicule, c'est-à-dire que cette espèce de la façon dont les extraterrestres arrivent avec cette espèce de
faut oublier ça.
Mais globalement, il y a des choses. La relation père-fils, etc., et aussi un peu mère, est assez intéressante.
Ouais. Et puis, par exemple,
et contrairement à ce que tu dis, je pense que la façon de filmer. De filer. Contrairement à la science-fiction, c'est souvent dans des paysages lunaires, etc. Là, on est au contraire dans des paysages américains qui sont assez intéressants. Bon, écoutez, on va pas passer plus de temps sur ces films parce que on a quatre coups de cœur et donc on passe tout de suite à Marie-Jeanne pour Les Ogres.
Alors, Les Ogres de Léa Fenner, il est rare dans une vie de pouvoir vivre quelque temps dans une troupe de théâtre itinérant. Et Léa Fenner nous fait partager cette expérience 2h30 durant. 2h30 pendant lesquelles
c'est
on
long.
Est... Non, eh bien non, justement. 2h30 pendant lesquelles on est littéralement emporté par l'énergie farouche et bruyante, la vitalité débordante, l'exaltation des comédiens, et pendant lesquelles on partage leurs ennuis, leurs angoisses, leurs disputes homériques, leur réconciliation, leur tendresse. C'est ce qu'a vécu d'ailleurs la réalisatrice qui s'est inspirée de son enfance. Le film ne nous laisse pas de répit, il nous entraîne dans un tourbillon qui va de la scène aux coulisses, des coulisses aux caravanes, puis au spectacle de nouveau. Mais parfois, dans des moments graves et intimes, la caméra se fixe très longuement sur un visage, une expression qui repose le spectateur tout en donnant au film une très grande profondeur. Alors, pour donner plus de vérité à son film, Léa Fener a choisi des comédiens qui, pour la plupart, sont issus du théâtre de rue. Elle fait jouer son père, sa mère, sa sœur, qui sont au sens propre dans leur rôle, sauf Adèle Haenel, qui est lumineuse, magnifique, et qui donne à son personnage de femme amoureuse et enceinte une épaisseur et une réalité très émouvante. Si le film est gai et joyeux, il a aussi des moments extrêmement durs, où les personnages épuisés se déchirent, s'entre-dévorent comme des ogres qu'ils sont, et où ils laissent exploser la rancœur des reproches trop longtemps tus, leur jalousie, leur mesquinerie tellement humaine, leur désillusion. Chacun s'ingère dans la vie de tous, aucune vie privée n'est possible dans cette grande famille ouverte, bien sûr. Mais l'énergie vitale qui les ronge, leur joie, sont tellement communicatives que lorsqu'à la fin du film, ils plient leur chapiteau définitivement pour nous, on est triste de les voir partir et de ne pas pouvoir les accompagner plus longtemps. Si en sortant du film, vous n'aviez pas en tête leur chanson, si vous n'aviez pas envie d'esquisser des pas de danse sur le trottoir, eh bien ce serait désespérant.
Faut le revoir. Bon, Jean, tu nous parles de Belgica.
Ouais, Belgica est un film belge, flamand, de Félix van Groningen, dont nous avions déjà vu Alabama Monroe et La merditude des choses. Joe, célibataire, tient un petit café, le Belgica, à Gand. Il reçoit un appel de son frère, Frank, marié et père d'un enfant, lui proposant sa collaboration. Grâce à la complicité des deux frères et à leur passion de la musique, le Belgica devient vite un des hauts lieux de la vie nocturne de la région. Brillamment réalisé, cette histoire familiale est avant tout l'occasion d'une immersion dans un monde réservé aux initiés. Celle des fêtes endiablées où se mêlent musique, alcool, sexe et drogue, et où l'on se défoule joyeusement avant que les choses ne dégénèrent. Rarement un tel endroit où l'on vous accueille d'un « bienvenue dans ce lieu de perdition » aura été présenté avec autant de virtuosité. L'histoire des deux frères est dévoilée progressivement. L'aîné, Franck, protège depuis l'enfance son cadet, Borgne, avec en retour affection et admiration. Franck est une grande gueule, jamais à court d'idées, mais peu fiable et parfois violent. Son audace a pourtant aidé le Belgica à décoller. Van Groningen brosse surtout une chronique sociale de notre temps, avec deux héros mal dans leur peau et peu armés face aux difficultés, mais auxquels ils prêtent une belle énergie vitale. Quant au rêve des deux frères de réaliser dans leur cabaret une arche de Noé ouverte à tous, sans caméra ni videur à l'entrée, ils s'apparentent plus à un délire qu'à une utopie. En ces temps où nous sommes souvent accablés par le pessimisme et le misérabilisme des films français sur la banlieue, cela fait plaisir de voir un film pétant de vie, même s'il faut aller le chercher en Belgique.
Merci Jean. Jean-Michel, tu peux nous parler de L'homme qui répare les femmes.
Oui, c'est un documentaire, on reste en Belgique d'ailleurs. L'homme qui répare les femmes, La colère d'Hippocrate, est un film de Thierry Michel, qui est un documentariste belge qui travaille beaucoup sur l'ex-Congo belge. Ce documentaire retrace à partir du livre éponyme de la journaliste Colette Breckmann, co-signataire du scénario, le parcours du docteur Denis Mukwege, un gynécologue et militant des droits de l'homme congolais.
Et de la femme.
Lauréat du prix Sakharov 2014 et pressenti pour le prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege est très connu internationalement comme l'homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflit dans le sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Objet de plusieurs tentatives d'assassinat, il a mené une lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer partout, jusqu'à la tribune des Nations Unies, l'impunité dont jouissent les coupables. Interdit de séjour en RDC, le réalisateur commence par tourner les déplacements du médecin à l'étranger, partout où porte sa voix. Mais pour ce qui est de l'essentiel, son action sur le terrain, il doit déployer des mesures de sécurité. Son documentaire est d'une dureté extrême, avec parfois des images à la limite du soutenable, mais le récit de ces violences passe surtout dans les témoignages de femmes dont certaines n'auront jamais ni relations sexuelles, ni enfants et resteront incontinentes à vie. La caméra, toute proche ou plus à distance, les soutient, entend les procès et cherchant les réponses. Soutenu par 18 associations, le film interdit en RDC jusqu'en octobre 2015, a déjà reçu de nombreux prix internationaux.
Ouais.
Très beau film.
Très beau film, mais dur. Alors, je vais vous parler d'un,
en tant qu'il nous reste là d'un film aussi sur les problèmes des femmes, mais beaucoup moins dur. Il s'agit de Nolan's Song, qui est un documentaire lui aussi, mais de l'Iranien Hayat Najafi, et qui donc parle de la place des femmes dans la société iranienne et de tous les interdits plus ou moins mesquins ou ridicules qui les frappent. Alors le film traite ce sujet à travers l'histoire de la sœur du réalisateur, Sarah Najafi, qui veut monter à Téhéran un concert de chanteuse. Alors ça vous rappelle sans doute quelque chose. Il y a eu un autre film iranien il y a quelques années, Les Chats Persans, qui mettait en scène des groupes de rock cherchant à jouer à Téhéran. Et on y retrouve, pour ceux qui l'avaient vu, la même volonté et la même débrouille face à des autorités tatillonnes. Alors on apprend ainsi que les femmes ont le droit de chanter en chœur, mais pas en solo, ou alors seulement devant des femmes. On a aussi un docte Mola qui explique que leur voix trop douce susciterait des émotions et des désirs interdits chez les hommes, mais que, curieusement, et le Coran l'explique, l'inverse n'est pas vrai. Un homme ne suscite pas. La position des autorités varie au gré des changements de fonctionnaires, dont on n'entend que la voix, toutes les scènes dans les ministères étant frappées d'un écran noir, qui est d'ailleurs un beau symbole dans le sens de l'obscurantisme. Mais, comme souvent dans les films iraniens, en même temps que l'interdit, on vous donne le moyen de le contourner. On peut mettre un chœur muet au fond de la scène ou ajouter un chanteur mâle que l'on n'entendra pas. Donc il y a ce côté toujours amusant de ces films. Et le film aussi nous emmène dans une promenade nostalgique dans des lieux délabrés qui ont été des cabarets ou un hôtel de luxe. Il fait aussi revivre de grandes chanteuses d'avant la Révolution et dans des chants très émouvants. Donc un film dont le sujet est douloureux, car il montre le manque de liberté de ces femmes iraniennes, mais dont la réalisation est souriante, fait preuve d'un optimiste très volontariste. Donc, une leçon de courage, très plaisante, qu'on peut aller voir, et qui...
Réjouissante.
Réjouissante, voilà. Oui. C'est toujours réjouissant de voir des gens qui se battent comme ça avec le sourire.
Oui.
Voici le temps de rendre l'antenne. Merci à Marie-Jeanne, Jean et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois, de 13h15 à 14h, et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 26 avril. Bonne journée !